France Inter.
To be or not to be, not to be.
Il faut redéfinir ce qu'est un bon acteur ou une bonne actrice. Parce que bon, ok, Leonardo DiCaprio qui bivouaque pendant 6 mois dans une forêt, qui boit son pipi et qui mange du lichen sur les arbres pour préparer le tournage de The Revenant, c'est impressionnant. Meryl Streep avec une choucroute grise sur la tête qui chope l'accent de Margaret Thatcher pour La Dame de Fer, pareil. C'est bluffant comme un numéro du plus grand cabaret du monde. Mais Tobey Maguire dans Spider-Man, qui parvient à t'émouvoir avec un costume en spandex qui lui rentre dans le scrotum, ah ben c'est pas simple non plus. Chris Evans dans Captain America qui doit véhiculer du charisme et de la noblesse d'âme, littéralement habillé dans un drapeau. C'est pas une mince affaire. Alors bien sûr que ces films ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre, mais le travail d'acteur ou d'actrice dans ces œuvres est autrement plus difficile pour moi que de jouer à un père de famille qui se bat pour avoir la garde de ses gosses. On dit qu'il faut souvent séparer l'œuvre de l'artiste, mais il faut aussi savoir séparer le travail de l'artiste de l'œuvre. Andy Serkis qui joue Gollum, King Kong ou César dans La Planète des Singes, ça mérite un Oscar d'interprétation. Sigourney Weaver dans Alien, évidemment que ça mérite un Oscar d'interprétation. Ian McKellen qui joue Gandalf le magicien face à des balles de tennis sur fond vert, ça mérite un Oscar d'interprétation. Christopher Reeve dans Superman, qui a réussi à faire croire à tout un monde qu'un homme pouvait voler, ça méritait aussi un Oscar d'interprétation.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
L'essentiel de tes pouvoirs résidera dans ta vue, ton ouïe, ta force physique, la capacité à te propulser à une vitesse pratiquement sans limite. La formation de notre univers fut un sanglant tissu de conflits interplanétaires. Chacune des 6 galaxies que tu traverseras au cours de ton voyage comporte ses propres lois spatio-temporelles. Il est interdit de contrecarrer le cours de l'histoire humaine.
En 1978, Superman sort sur les écrans américains. Superman de Richard Donner, un film définissant un nouveau genre avec ses règles propres, le film de super-héros. Règles auxquelles nombre de métrages continuent de se référer encore aujourd'hui. Avec un casting 3 étoiles qui va de Gene Hackman à Marlon Brando, scénarisé par Mario Puzo, l'auteur du Parrain, le film va propulser un jeune acteur inconnu dans la lumière, Christopher Reeve. Un visage inoubliable qui est encore, pour beaucoup, irrémédiablement associé à celui de Superman. Pour revenir sur la genèse de ce film culte, je suis en compagnie de Philippe Gedge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste cinéma au Point, spécialisé dans l'industrie de la pop culture, et vous avez co-réalisé aux côtés de Philippe Roure, avec, voilà, qui aurait pu être avec nous, le documentaire Christopher Reeve, le Superman éternel, sorti en 2024.
Exactement.
Avec nous également Jean-Jacques Launier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur du musée Art Ludique à Paris et commissaire de la première exposition mondiale sur l'art de DC Comics, intitulée L'Aube des super-héros, une exposition qui a fait le tour du monde.
Absolument, c'est vrai qu'on l'a présentée en avant-première à Paris, puis après elle est partie à Londres, à Tokyo, en Hollande, elle est restée au Japon pendant près d'un an, elle est même allée à Abu Dhabi où elle a eu un énorme succès. Donc c'est vrai que c'était une très très belle aventure.
On va en parler, je n'ai qu'une chose à dire, up up and away.
What's your background? Where do you hail from?
Vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes d'où exactement?
Well, it's kind of hard to explain, actually. See, I'm from.
C'est difficile à expliquer. C'est vrai que je ne suis pas d'ici.
Pretty far away.
Je viens de très loin. D'une autre galaxie, d'un monde différent.
From a planet called Krypton.
Je viens d'une planète nommée Krypton.
Why are you Pourquoi here? Vous êtes ici? Il doit bien y avoir une
yes.
raison particulière.
I'm here to fight for truth and justice in the American way.
Combattre pour la vérité, la justice et l'idéal humain.
You're gonna end up fighting every.
Il vous faudra combattre tous les hommes qui dirigent cette planète.
Sure, you don't really mean that.
Ça, sans le penser, Lois.
I don't believe this.
Lois.
Lois,
I never lie.
Je ne mens jamais.
Just how fast you fly?
À quelle vitesse vous êtes capable de voler?
Oh, non, really?
No, oh, je ne sais pas. Au juste, en fait, je n'ai jamais pris la peine de me chronométrer.
Non.
Dites-moi.
Why don't we find out?
Et nous pouvons savoir.
And how do you propose we do that?
De quelle façon vous comptez vous y prendre?
Take a ride with me?
Faites un tour avec moi.
Ready?
On y va.
Clark.
Clark.
Said that you're just a.
Il dit.
Figment of somebody's imagination.
Comme vous avez été imaginé par quelqu'un.
Like Peter Pan.
Comme Peter Pan.
Clark. Who's that, your boyfriend?
Qui est-ce, votre ami?
Clark? Oh, Clark. No, he's nothing. He's just a
Peter Pan, huh? Peter Pan flew with children, though.
Peter Pan volait avec les enfants. C'était dans les contes de fées.
venez d'entendre un extrait du film Superman de Richard Donner ou Lois Lane interprétée par Margot Kidder. Interview Superman joué par Christopher Reeve avec, pour voix française, les voix de Perrette Pradier et Pierre Arditi. Philippe Gage, aujourd'hui, produire un film de super-héros, c'est presque quelque chose de quotidien. Voilà, ça ne surprend plus personne. Mais en 78, quand apparaît sur nos écrans Superman, on découvre quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu. Comment est monté ce projet ?
Ce projet, il est monté par l'intermédiaire de deux producteurs qui étaient totalement outsiders du système hollywoodien, Alexander Salkind et son fils, Ilya Salkind, qui sont... tout comme l'étaient d'ailleurs les créateurs de la BD Superman dans les années 30, qui sont pas du tout nés... ils sont extérieurs à la culture américaine. C'est des producteurs d'origine polonaise, russe en même temps. Ils vivent en France au moment où ils ont l'idée de Superman. C'est Ilya Salkind qui lisait le comic book quand il était enfant, qui a l'idée d'adapter le comic book Superman dans une très grosse production sur grand écran. À l'époque, les Salkind, ils sortent, donc on est au début des années 70, hein, 72, 73, ils sont tout juste, ils sortent tout juste d'un gros succès commercial qui est une adaptation des Trois Mousquetaires avec Michael York. Et Ilya Salkind, il a été profondément marqué par la vision quelques années plus tôt de 2001, l'Odyssée de l'espace. Il a envie, avec son père, de refaire une très grosse production adaptée d'une œuvre de patrimoine, et quelque part, Superman, c'est un personnage qui appartient au patrimoine américain. Et c'est Ilya Salkind qui va... Alors, lui, raconte que c'est pendant qu'il se baladait avec son père, avenue Victor Hugo à Paris, qu'il a eu un moment d'illumination. Il a pensé au personnage de Zorro, et il se dit, tiens, et si pour notre prochain film, on allait adapter les aventures d'un héros en costume qui est très très connu des gens. Alexander Salkind, donc le père d'Ilya Salkind, Alexander qui lui-même était fils de producteur, c'est une dynastie de producteurs les Salkind, hein. Le grand-père Michael Salkind produisait déjà du temps du cinéma muet, donc voilà, ils sont très expérimentés. Alexander Salkind ne voit pas du tout qui c'est Superman, il fait confiance à son fils, à l'instinct de son fils. À l'époque, comme vous le dites, Frédéric, les films de super-héros au cinéma, ça n'existe pas. Il y a bien un Batman qui est sorti dans les années 60, mais qui était surtout une sorte de collage de deux épisodes de la série
66, voilà. Avec Adam West et Burt Ward.
Et exactement, et qui était sur un mode complètement kitsch au 15e degré, et qui était là plutôt pour un peu ridiculiser le personnage.
Avec le fameux bat-spray anti-requin.
Oui, voilà, c'est ça, parmi d'autres gags. Là, les Salkind, ils veulent plutôt en faire quelque chose d'assez sérieux de ce futur Superman, et c'est là comme ça, c'est à Paris, en fait, au début des années 70, qu'est née l'idée d'un film Superman, d'une super production Superman. C'est très important.
Alors, c'est une chose d'avoir l'idée, mais ensuite, comment on met au point un scénario ? Qui on contacte ? Et surtout, qui sont les autres acteurs du métier qui acceptent de participer à cette première fois ?
Alors, tout est à faire à ce moment-là, parce que les Salkind, même s'ils sortent du succès des Trois Mousquetaires, ils sont, encore une fois, c'est des outsiders d'Hollywood. On leur rit souvent, d'ailleurs, on va leur rironner quand ils proposent, quand ils font le tour de certains studios pour adapter Superman. Alors, logiquement, c'est avec le studio Warner, qui est propriétaire de DC Comics depuis 1967 ou 68. C'est vers Warner que les Salkind se dirigent très rapidement. Il faut leur connaître apparemment un très grand talent de conviction, de négociation. En même temps, à l'époque, pour Warner et surtout pour les dirigeants de DC Comics à l'époque, c'est un peu une folie de faire un film sur Superman. Et personne n'y croit tellement. Personne à Hollywood, avant les Salkind, donc qui ne viennent pas d'Hollywood, personne à Hollywood n'a eu l'idée de faire un film sur Superman.
Oui, donc, d'autant que c'est peu de temps après, ou même en même temps, va sortir Les Dents de la Mer. On a eu La Guerre des Étoiles en 77, mais qui, pareil, a surpris énormément de monde. Donc, en fait, il y a encore énormément de gens qui restent un petit peu dubitatifs par rapport à un postulat totalement science-fiction.
Ah oui, complètement. Surtout qu'on est, encore une fois, quand les négociations commencent entre les Salkind et les responsables de DC Comics, alors je crois qu'à l'époque c'était un dénommé Sol Harrison qui était le président de la société, à cette époque-là, donc on est en 73-74, en effet, on est avant la sortie des Dents de la Mer, on est avant la sortie de La Guerre des Étoiles, et donc on est encore dans cette période où Hollywood est plutôt, la mode c'est plutôt les films d'auteur, le nouvel Hollywood, les films de Scorsese, de Palma, et de Coppola, et ce sont Hollywood a envie encore d'un cinéma d'adultes, sérieux, tragique, et Superman, c'est du carnaval, quoi. C'est du folklore. Et ça va être forcément un truc kitsch à la Batman. Donc, il va falloir une grande force de conviction pour les Salkind d'imposer l'idée d'une super production, d'un film qui va faire, alors à l'arrivée, qui va coûter plus de 50 millions de dollars, ce qui est à l'époque le plus gros budget de l'histoire du cinéma. Et en effet, Ilya Salkind se dit, avec l'appui de son père, que pour crédibiliser l'entreprise, il faut très vite fidéliser des grands noms. Donc, à l'écriture, en effet, il se tourne vers Mario Puzo, l'auteur du roman Le Parrain et co-scénariste du Parrain, qui en 72 a été le plus gros succès du cinéma américain. Et Ilya Salkind, qui garde toujours dans l'idée de faire quelque chose qui sera proche, alors peut-être pas proche de 2001 de l'Odyssée de l'espace, mais une grande fresque de science-fiction, il se tourne vers le chef opérateur de 2001 de l'Odyssée de l'espace, Geoffrey Hemsworth, et ils ont l'idée aussi, dans les rôles de Jor-El, le père de Superman, et de Lex Luthor, de se tourner vers des grandes stars. Ils commencent par là, en fait. Hein. Ils courtisent Marlon Brando, qui était dans Le Parrain également. D'ailleurs, ils vont courtiser aussi, dans la longue liste des réalisateurs qui vont courtiser...
Et avec Coppola.
Ils vont courtiser Coppola, qui refuse, évidemment. Et Gene Hackman donc dans le rôle de Lex Luthor. Voilà.
Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment ces acteurs ont appréhendé cette proposition, parce que Marlon Brando a la réputation d'être quelqu'un quand même d'assez sec et autre. Il a plein de réputations,
oui,
mais
oui,
il a aussi celle-ci.
Entre temps, oui.
Et donc, est-ce qu'il est venu c'est uniquement l'argent? Est-ce que c'est le projet? C'est l'argent.
Ah oui, c'est l'argent. Alors c'est l'argent et il s'est pris au jeu. Alors si on en croit la littérature qui a été écrite sur les coulisses du tournage de Superman, apparemment Brando s'est quand même pris au jeu pendant le tournage. Alors il n'est pas resté très longtemps, il a été payé, alors selon les sources, on lit entre 4 et 5 millions de dollars de l'époque, son cachet pour 5 jours de tournage, une semaine en gros. Et apparemment sur le tournage, il s'est pris au jeu. Il a apprécié les résonances bibliques du script, de la version finale du script, telle que l'ont co-signé, sans être crédité forcément, Richard Donner et Tom Mankiewicz, sur la base du script initial de Mario Puzo. Mm-hmm. Et donc pour Marlon Brando, c'est vraiment une histoire de pognon. Non, clairement. De même que Gene Hackman. Pour eux, c'est pas du tout des fans de bande dessinée, c'est pas du tout des fans de Superman. Ils se disent qu'ils vont jouer dans un gros truc hyper commercial, mais qui n'a jamais été fait jusque-là à Hollywood. Ils vont prendre l'argent, et puis c'est tout. D'ailleurs, Gene Hackman en particulier, pour lui, le rôle de... On voit bien qu'à l'écran, il joue Lex Luthor comme vraiment une sorte de bouffon en chef. Il ne prend pas du tout son rôle au sérieux. Il s'est bien éclaté jusque-là. Et puis, c'est tout. Tout le contraire de Christopher Reeve, d'ailleurs, hein, qui, même si au début, il accepte de passer les auditions et de prendre le rôle de Clark Kent Superman pour des raisons utilitaires, il va lui prendre très, très au sérieux l'affaire.
Jean-Jacques Lognier, avant même de créer cette exposition, là, je vais m'adresser à l'enfant que vous étiez quand vous avez découvert ce premier Superman. Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
J'étais un étudiant déjà, mais c'est gentil de le dire. Et donc, effectivement, j'étais déjà en train de faire des études de dessin. Donc, j'étais passionné par le dessin. Et Superman, pour moi, ça me parlait. Et c'est vrai que c'est un choc. Alors, il y avait eu en 77, effectivement, Star Wars, qui avait bouleversé un peu les curseurs. Mais Superman, dont j'étais assez fan, parce que j'étais fan de comics, les comics ayant une grande importance pour moi, à mes yeux, c'est, comme le disais, c'est au-delà du patrimoine, c'est un art contemporain, figuratif, narratif, c'est les mythologies contemporaines. Donc, le rôle de Christopher Reeve, c'est justement de donner vie à quelque chose qui incarne quelque chose d'extrêmement symbolique sur lequel on pourra potentiellement revenir. Et donc, j'ai été bluffé, quoi, clairement. C'est un grand choc. Ça le reste aussi. J'ai eu la chance, effectivement, de faire ces expos en montrant ses costumes. Enfin, donc, j'étais particulièrement ému en faisant ça.
Et donc, la première fois que vous avez vu le costume qui avait été porté par Christopher Reeve, j'imagine que l'étudiant fan de dessin et tout ça, là, il a dû lâcher sa petite larme.
Non, ouais, c'est vrai que c'est magique, le costume de Clark Kent, la cape. Alors, bien sûr, on est allé chez Warner faire nos sélections, mais quand c'est arrivé à Paris, on avait fait des vitrines un peu surélevées avec des lumières en dessous, enfin, extrêmement belles, et c'était magique de se balader un peu tout seul. Bien sûr, il y avait ce qu'on appelle des douches sonores, c'est-à-dire qu'on, quand on passe sous ces douches, on entend la musique du film, et c'était complètement exaltant, transcendant, et c'est vrai que bah, ça m'a rappelé tous ces souvenirs-là. Je pensais pas pouvoir un jour faire quelque chose comme ça.
Et alors, à propos de souvenirs, quand on a vu la première fois Superman de Richard Donner en 1978, il y a ce moment qui arrive après une première heure de film, c'est ce moment que j'appellerais le moment Barry White, du film, où Margot Kidder, qui interprète Lois Lane, va se mettre à parler, slammer sur un thème de John Williams en volant avec Superman et en lui disant « Can you read my mind ?» Un moment que même l'enfant que j'étais quand j'ai vu Superman dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» On l'écoute.
« Can you read my mind ?» Do you know what it is that you do to me ? I don't know who you are. Just a friend from another star. Here I am, like a kid out of school, holding hands with a god. I'm a fool. Will you look at me, quivering, like a little girl, shivering? You can see right through me. Picture the things I'm thinking of. Wondering why you are all the wonderful things you are. You can fly. You belong in the sky. You and I could belong to each other. If you need to be loved, here I am. Read my mind.
Frédéric Sigrist sur France Inter.
Après des mois de recherche, le spécialiste des effets visuels Zoran Pirincic met au point un système optique révolutionnaire qui donne l'illusion d'un Christopher Reeve en plein vol. Grâce à sa propre expérience de pilote d'avion, l'acteur fait corps avec le super-héros venu du ciel.
J'ai volé, moi aussi. Donc je sais combien c'était douloureux. Parce que je devais parfois le suivre, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, tout le poids du corps reposait sur les couilles. Avec tous les câbles, c'était assez inconfortable. Je répétais avec les doublures, et je me disais, ah mince, ça marche pas. Et là, Chris arrivait et ça marchait. Le mouvement était naturel.
Le plus dur sur ce film, c'était de voler. Pour trouver l'équilibre, je devais cambrer le dos et tendre la pointe des pieds. Ça me broyait le bas du dos. Il y avait des matins où il me fallait littéralement 5 minutes pour réussir à sortir du lit. Je devais me rouler hors du lit, rester allongé par terre et me redresser petit à petit quand la douleur disparaissait. J'y ai laissé mon dos. En fait, je ne savais pas que j'allais finir le boulot en me brisant le cou. C'était vraiment douloureux.
Un extrait de votre documentaire, Philippe Gage, Christopher Reeve, le Superman éternel, où on entend Christopher Reeve lui-même, suivi de Peter MacDonald, le premier opérateur caméra pour les films Superman 1 et 2, avec Pierre Arditi qui fait la voix off après avoir fait la voix française de Christopher Reeve, interprétant Kal-El, Clark Kent, Superman. Cet acteur, Christopher Reeve, parfait inconnu à l'époque, d'où vient-il ?
Alors, il vient du théâtre. Il n'est absolument pas... Donc, il est né en 1952. Donc, en gros, il a 24 ans quand il est sélectionné pour incarner Clark Kent Superman et 25 ans pendant le tournage de Superman. Il vient du théâtre globalement. Il a la passion du théâtre depuis qu'il a 9 ans. Il a joué dans plusieurs pièces du répertoire, notamment shakespearien, dans pas mal de théâtres de la côte Est. Il a eu un rôle récurrent un tout petit peu avant dans un soap à la télé, Love of Life, qui l'a aidé pas mal à payer les factures. C'est un soap, Love of Life, qui a accueilli pas mal de stars américaines en son temps. Roy Scheider est passé par là aussi.
Le fameux shérif Brody.
Exactement, dans Les Dents de la Mer, tout à fait. Et Christopher Reeve a eu le temps, juste avant Superman, je crois qu'il a tourné Sauver le Neptune, qui est un film où il a un tout petit rôle, on le voit vraiment quelques secondes, quelques minutes dans ce film-là, qui date de 1974, mais globalement, sa formation à Christopher Reeve, c'est le théâtre. Il a même noué une amitié avec Katharine Hepburn sur les planches, lors d'une représentation d'une pièce à Broadway avec elle, et elle l'avait d'ailleurs fortement déconseillé d'accepter ce rôle de Superman quand il a informé qu'il avait été sélectionné pour passer des auditions. Mais c'est un total inconnu. À part les gens qui regardent Love of Life, personne n'a imprimé son visage, il sort de nulle part, et la sélection de Christopher Reeve va complètement à l'encontre de l'intention initiale des Salkind, qui était d'engager une star.
Oui, d'engager des stars. D'autant qu'ils ont été assez larges ouais. dans leur champ de recherche de Superman. J'ai vu des noms passer qui étaient quand même surréalistes. Ouais. Alors ça, c'est peut-être une légende urbaine, mais vous confirmez ou infirmez, j'ai vu Mohamed Ali.
Ah, alors, je ne peux pas confirmer. Sincèrement, alors là, j'aimerais bien vous le confirmer, mais sur le... Alors, moi, j'ai été faire des recherches à la bibliothèque des Oscars à Los Angeles, et c'est là où on a exhumé ce document qu'on
Tom
montre
Selleck.
Un moment dans le film. Voilà, et on voit ces noms. J'ai pas le souvenir d'avoir vu. Donc c'est un document, c'est un listing qu'avait établi le directeur de casting de Superman, et je ne retrouve pas le nom de Mohamed Ali dans la liste de ces noms.
Ça me semblait peut-être... quand même énorme. Parce que je me disais là, on était vraiment vers un progressisme.
Mais il y a la bande dessinée, il y a évidemment le
voilà.
fameux
oui,
combat
Superman contre
exactement.
Mohamed Ali.
Ça a dû être inspiré par ça, effectivement.
C'est très probable.
Mohamed Ali gagne le combat.
Il avait la carrure, hein.
Absolument.
Il avait la carrure. Il est probable que ça aurait fait hurler pas mal de puristes à l'époque. Voilà.
Mais j'ai vu Tom Selleck, effectivement.
Tom Selleck a passé les auditions.
Ce qui veut dire que Tom Selleck a donc vu le rôle de Superman lui passer sous le nez. Comme le rôle d'Indiana Jones.
Bah, si on l'en croit, la présence de son nom dans les auditions, il y a même un jour et une heure pour son rendez-vous. Oui. Après, il n'est pas le seul. Hein. Encore une fois, il y a quand on voit cette liste, il y a quand même bien au moins une vingtaine de noms qui sont parfaitement identifiés aujourd'hui, comme Harrison Ford, comme Tom Berenger et plein d'autres. Il y a aussi ceux qui ont refusé, hein, comme le dit Ilya Salkind dans notre documentaire. Robert Redford, par exemple, il a dit non tout de suite, passer à autre chose. Je suis pas le rôle.
Jean-Jacques Launier, en ayant accès aux costumes de toutes ces adaptations de films de super-héros qui sont tous des héritiers du Superman de 78, vous avez donc eu accès aux différentes incarnations de Superman. Peut-être que c'est impossible de dire pourquoi, mais qu'est-ce qui fait que Christopher Reeve est singulier dans son interprétation de Superman quand on compare à Henry Cavill un peu plus tard, ou même des versions télévisées comme Tom Welling, Dean Cain, etc.
Alors c'est vrai que je suis d'accord là-dessus, il a une espèce d'aura, et pourtant Henry Cavill, on l'a rencontré, on est allé sur le tournage, il est venu visiter le musée, c'est un vrai fan, et pour le coup Henry Cavill c'est un fan de comics, donc il était très content, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'aura dans la stature, peut-être parce que c'est un comédien qui vient d'une certaine façon du classique et qui prend, comme vous dites, son rôle au sérieux. Or, le personnage de Superman, sur le fond, est un personnage sérieux. C'est le premier super-héros de l'histoire. Les personnages Marvel sont plus fun. Lui, il est quasiment christique, quoi. Et en plus, il a été créé par deux ados, fils de migrants. Donc, c'est lui aussi un migrant qui vient d'une planète qui a disparu. Donc, si on le prend vraiment au sens du comics, mais littéraire du sens, il a un rôle. Et je pense qu'il l'a interprété de cette façon-là. Donc, il lui donne une stature. Il est emphatique. Les autres sont impressionnants. Enfin, voilà, Zack Snyder a un côté aussi...
Oui, culte du muscle et du corps.
Ouais, il est très opératique. Ce côté, voilà, absolument. Mais c'est vrai que lui reste unique dans son interprétation.
Philippe Gage, C'est vrai qu'il est très grand en plus, mais même assez fin. Et au début, les producteurs disent « Non, tu es trop maigre pour le rôle. »
Non, mais le rôle a vraiment failli lui échapper à cause de son gabarit très très mince. Hein. Alors, pas maigre, mais oui, très grande tige, pas du tout musclée. La seule raison pour laquelle ils l'ont gardé, c'est parce que lorsqu'il incarnait Clark Kent, pendant son audition qu'il a passée dans un grand hôtel de la 5e avenue à New York, il était très convaincant. Il a dû donc... La condition pour qu'il hérite du rôle, c'est qu'il fasse plusieurs mois d'un entraînement physique important. Alors cela dit, je crois que quelqu'un dans la production avait proposé qu'il porte des prothèses. Il avait refusé. Je crois qu'il y a un autre acteur récemment. Il me semble que Coren Swetz, l'acteur qui joue Superman, oui. Clark Kent dans le nouveau Superman de James Gunn, il a fait pareil. On lui avait proposé parce qu'il n'était pas musclé non plus, et il s'est astreint à un très très gros entraînement physique. Et Reeves, c'est pareil.
Le James Gunn aurait dit à cet acteur, je veux que tu t'étoffes sur deux points, tes épaules et ton humanité.
Ah oui, d'accord.
Voilà, c'était les deux critères de sélection pour jouer Superman. Il faut des épaules et de l'humanité.
Eh bien, Christopher Reeve, il avait l'humanité, il avait l'intensité, mais il n'avait pas les épaules, très clairement. Et donc, en effet, il a fait plusieurs mois, je n'ai plus le chiffre en tête, mais plusieurs mois de culture physique très, vraiment très intensive, sous l'égide, donc l'anecdote est connue, de David Prowse, futur Dark Vador dans La Guerre des Étoiles. David Prowse, qui était un culturiste renommé à l'époque, et qui était le coach de pas mal de célébrités hollywoodiennes. Et à l'issue de ces plusieurs mois d'entraînement, Christopher Reeve est revenu devant les producteurs, devant Ilya Salkin et devant Richard Donner, hein, qui avait été engagé entre-temps. Et tout le monde a vu qu'il avait pris je ne sais plus combien de kilos de muscles, et que là, pour le coup, oui, il était indubitablement aussi crédible en Clark Kent qu'en Superman.
Et Richard Donner, Richard Donner qui, jusqu'à maintenant, n'avait que la... C'est déjà beaucoup, mais que la malédiction derrière lui, film d'horreur épouvante qui est dans une tonalité complètement différente de ce qu'il va faire avec Superman. Comment il a été recruté ?
Alors Richard Donner, il est suggéré à Ilya Salkin par, alors je sais plus si c'est sa femme, je crois que c'est ça, c'est l'épouse d'Ilya Salkin, donc l'un des deux producteurs de Superman, qui a vu La Malédiction en salle, qui a trouvé ça génial, et qui, alors que Ilya et son père auditionnent contact, Coppola, Polanski, et plein d'autres réalisateurs qui ont vraiment pignon sur rue à l'époque, donc Ilya Salkin voit à son tour La Malédiction, lui aussi il est complètement emballé, et il se dit très bien, pourquoi pas, Richard Donner, en plus il va nous coûter moins cher, même s'il est en vue grâce à La Malédiction, c'est pas un réalisateur de la stature de Coppola, donc il va nous coûter moins cher. Le courant passe très vite entre les deux hommes, ce qui séduit Ilya Salkin, Ilya donc qui était un lecteur de Superman dans l'enfance, c'est que Richard Donner, lui aussi, d'après ses propres dires, en tout cas c'est ce qu'il dit dans sa biographie, il a lu lui aussi la bande dessinée, il est très sensible à l'aspect patrimonial du personnage de Superman, il est très sensible à la Madeleine que lui évoque le personnage, ça lui évoque son enfance dans la campagne américaine, le bol de lait avec les cookies, la tarte aux pommes, les films de John Ford. Pour lui, Superman, c'est vraiment un morceau d'Americana, et il veut le traiter très sérieusement. Et ça va séduire Ilya Salkin. Alors après, il y a des versions différentes. Richard Donner, dans ses interviews ultérieures, a dit souvent que les Salkin voulait tirer Superman vers un peu la parodie. Il y avait des versions du script qui contenaient des gags un peu idiots qu'il a complètement viré avec son co-scénariste Tom Mankiewicz. Salkin, lui, Ilya Salkin dit au contraire, lui, que dès le début, il voulait que Superman soit quelque chose, un film très sérieux, qui prenne le mythe très au sérieux. Toujours est-il qu'on peut se féliciter de la sélection, du choix de Richard Donner, parce qu'on avait à la barre un auteur qui prenait le matériau au sérieux, qui avait une vision thématique et formelle du film. Il était perfusé au film de John Ford, encore une fois, Richard Donner, et ça se voit dans plusieurs plans du film. Il a été sélectionné, en fait, je reviens à ce que je disais au début, initialement grâce à la femme d'Ilya Salkin qui avait vu la Malédiction.
Comme quoi ça tient à peu de choses.
Souvent les hasards, oui.
On parle de ce mythe que représente Superman, et qui échappe beaucoup d'ailleurs quand on quand on parle de ce héros au grand public, en disant bon, c'est un mec super fort, voilà, avec un S. Il y a même très rapidement, on dit ah, il a le slip au-dessus de son collant, avec ses lunettes, on le reconnaît. Mais on touche à une vraie réappropriation, une réécriture de grands mythes qui ont parcouru les sociétés humaines.
Complètement, c'est vrai que j'employais le terme de mythologie contemporaine, mais c'est important et c'est vrai que tout cet univers, c'est un art contemporain, figuratif, narratif. Comme j'expliquais, depuis l'aube des temps, les artistes dessinent les hommes des cavernes, les hiéroglyphes égyptiens, pour raconter des histoires. Et ceux qui racontent des histoires aujourd'hui sont dans la bande dessinée, dans l'animation, dans le cinéma, bien sûr. Et donc, c'est vrai que ce personnage-là cristallise un petit peu la mythologie d'autrefois, les espoirs qu'on porte, les rêves, comme effectivement on le voit chez les Égyptiens, dans la tapisserie de Bayeux, dans les rouleaux japonais. Donc, il est une icône contemporaine et c'est très important parce que c'est pour ça qu'on s'est battu aussi pour avoir un musée qui explique tout ça, qui explique un peu toutes ces interactions, qui montre aux jeunes que ce qu'ils aiment c'est de l'art, quoi, et que si ça leur parle, on peut dire que c'est populaire si à ce moment-là on dit que l'art contemporain c'est plutôt parce qu'il n'y a pas d'équilibre, c'est au contraire, c'est un art qui parle aux gens, et c'est très important parce que d'abord il y a plein de métiers qui sont ouverts, que ce soit dans les industries créatives autour de ces univers-là, mais Superman d'une certaine façon c'est un peu le premier mythe contemporain qui a été créé. Alors c'est vrai qu'il évoque Moïse, c'est vrai qu'il a un côté Dieu, il porte le monde d'une certaine façon.
Il y a un sacrétisme de toute façon dans le mythe de Superman, c'est-à-dire que on convoque aussi bien les grands héros de la mythologie grecque, Hercule et même biblique, Samson, avec le mythe de Moïse, mais plongé aux États-Unis et de par le côté sériel, c'est-à-dire bande dessinée qui sort mensuellement aux États-Unis, il y a au fur et à mesure toute une évolution des États-Unis qui viennent se greffer. Et donc il y a ce journaliste qui se bat contre un entrepreneur adepte des nouvelles technologies. Donc en fait, il y a quelque chose de l'ordre du mythe méta.
Absolument. Et en plus de ça, les super-héros, quels qu'ils soient, je dirais, arrivent dans les périodes de crise, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu la crise de 29 dans laquelle arrive Superman. Il accompagne effectivement aussi l'effort de guerre. Plus tard, les autres super-héros seront les enfants de l'atome, mais ce sera la guerre froide avec Marvel. Enfin, à chaque fois qu'il y a une vraie période de crise, arrivent les super-héros. Donc, ils sont vraiment porteurs d'espoir, porteurs de valeurs, porteurs d'encouragement. Et je pense qu'ils ont un vrai rôle à jouer dans notre culture, en enlevant le mot pop, parce que je pense que c'est la vraie culture contemporaine et c'est ce qui restera, à mon avis, de notre époque.
Je suis totalement d'accord. Philippe Gage, on n'a pas encore parlé de Margot Kidder qu'on a entendu, je ne vais pas dire pousser la chansonnette parce que ça serait un petit peu osé de ma part de dire qu'elle chantait, mais justement, cette histoire est assez intéressante parce qu'à la composition de Superman, on a ce compositeur énorme qui est John Williams, qui initialement voulait une chanteuse pour ce moment.
Oui, mais enfin, il est vite revenu sur l'idée. Ils ont fait des tests. Hein, ils ont fait enregistrer à Margot Kidder ce monologue qui était donc initialement une chanson. Alors, dans quelle mesure cette idée était une idée commune entre John Williams et les co-scénaristes David et Leslie Newman qui ont co-signé le scénario de Superman, ils ont fait une passe après Mario Puzo, enfin entre Mario Puzo et Tom Mankiewicz, et David et Leslie Newman avaient composé étaient les auteurs d'une comédie musicale qui avait été consacrée à Broadway à Superman en 1965. Voilà, c'était sans doute une des communes, mais ils en sont rapidement revenus parce que de ce qu'on lit à l'époque des témoignages, la version, la chanson en question était vraiment encore plus kitsch que ce qui est dans le film au montage final.
Oui, elle-même, elle dit que ça a été un des moments les plus gênants de sa vie.
On peut la comprendre, oui. Oui.
Hey,
quoi?
Ah, ici. Avancez.
Come on, get in. Hurry up. Come on.
Clark, I think we better go.
Je crois qu'il vaut mieux qu'on filme.
Non, je crois qu'il vaut mieux faire ce qu'il dit, Loïs.
Come on, get in.
Entrez, plus que ça, allons.
Don't do anything.
Tiens pas, ça va. Entrez.
Pêchons, allez. Oh, en arrière.
Please don't point at me, sir.
Jouez pas, effectivement.
Ça va.
Attention.
Bougez plus, ça va comme ça. Restez où vous êtes, là.
Non, un petit peu. Écoutez-moi, je sais que les temps sont difficiles pour certains, mais croyez-moi, ça n'est pas. Personne ne peut résoudre ces problèmes en menaçant les gens.
You know somebody, you're right.
C'est quoi, mon pote, tu as raison. Je vais reprendre le droit.
Ah, bravo, je vous en félicite.
Oui, il ne ferait pas de mal à une mouche. Je vais reprendre le droit chemin, mais avec le sac de la crédit.
Ah, oui, bien sûr.
Come on, lady, hand it over. Allez, bel enfant, donnez-le-moi.
Là, ça serait peut-être plus prudent.
Eh oui. Vous venez d'entendre un extrait du film de Superman de 78 de Richard Donner où Lois Lane et Clark Kent sont victimes d'un braquage avec toujours pour la VF les voix de Perrette Pradier et Pierre Arditi, un doublage français où on entend les criminels dire « mais bel enfant ».
C'est merveilleux.
C'est merveilleux.
C'est toute une poésie. Non, mais on ne retrouve plus des versions françaises. Ça fait que, bon, vieux con encore de dire c'était mieux avant. Mais oui, les versions françaises étaient meilleures avant. Oui, on avait du temps pour faire ces doublages-là. Et j'ai plus le nom en tête de l'auteur de la version française, du texte, quoi. Mais chapeau à lui, quoi. Parce que Bel Enfant, c'est.
Oui, c'est, puis, bon, puis, c'est, ouais. Puis ça reste drôle, il y a quelque chose de toute façon, c'est pas hasard si on retrouve aussi certains noms qui ont aussi œuvré sur Starsky et Hutch et qui avaient magnifié la série originale. C'est Francis Lax qui double Lex Luthor.
Et qui doublait Hutch.
Hutch, oui, voilà. Et donc on retrouve cette même faconde des comédiens de théâtre à qui on a demandé de doubler et qui amènent énormément d'eux-mêmes.
Oui, on s'en plaint pas.
Oui, on s'en plaint pas du tout. Alors évidemment, aujourd'hui, quand on parle de films de super-héros, on parle d'écran vert, de CGI numérique toujours plus chiadé. Mais à l'époque, pour faire voler un homme, il faut créer toute une technologie. Comment ça s'est passé, Philippe Gage ?
Très mal, pendant plusieurs mois. La concrétisation de la promesse du film « You will believe a man can fly », on va réussir à vous faire croire qu'un homme peut voler, ça a pris beaucoup de mois à toute l'équipe des effets spéciaux et des effets visuels du film. Richard Donner a énormément bataillé pour gagner du temps auprès des producteurs, auprès des Salkind, qui voulaient que ça se fasse vite et que tant pis si les effets spéciaux n'étaient pas parfaits, c'est pas grave. Ça a coûté plusieurs millions de dollars en dépassement de tournage, en jour de tournage. Et puis d'ailleurs, il a dû refaire tout le planning de certaines scènes pour leur faire gagner du temps. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste technologique. Avec Philippe Roux, sur le documentaire, on s'est contenté de rappeler que c'est un dénommé Zoran Peridzic qui a inventé un procédé, un procédé optique spécialement pour le film, pour Superman, qui a trouvé l'idée de, grâce à des lentilles spéciales et une utilisation spéciale de la caméra, d'arriver à rendre photoréaliste le fait de filmer Christopher Reeve devant une rétroprojection. Si Zoran Peridzic n'avait pas trouvé ce procédé-là, on aurait eu quelque chose d'aussi kitsch que lorsqu'on voit les films d'Hitchcock avec les gens qui conduisent et les trucs derrière, les décors qui défilent, et on voit tout de suite que c'est pas naturel. Là, quand même, alors évidemment, avec le recul aujourd'hui, 45 ans plus tard, on voit les transparences, les effets spéciaux ont pris un coup de vieux, mais je vous assure qu'à l'époque, et Jean-Jacques, qui avait quoi, 35 ans déjà à l'époque, s'en rappelle, on n'avait jamais vu ça. Enfin, on était complètement, je dis tétanisé, mais pétrifié par le fait de voir un homme voler sans voir les câbles, sans voir. Donc oui, ça a pris plusieurs mois, et c'est l'affaire d'un homme, en effet, ce Zoran Peridzic, qui a donné un nom à son procédé. C'est horrible. La vie est un naufrage. Le nom du procédé m'échappe. Zoptique, quelque chose. Voilà.
Jean-Jacques Lognier. C'est vrai qu'on parle de ces séquences de vol de Superman, mais moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ce film, et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à m'expliquer comment ils ont fait, c'est les séquences de décollage. Il y a des moments où on voit Christopher Reeves avoir une conversation dans la rue avec une enfant à qui il vient de remettre son petit chaton qui était coincé dans un arbre, parce que Superman prend le temps de faire descendre des chats.
Cette scène.
Voilà. Et on le voit s'envoler, on a un plan large en plongée, et il y a vraiment 5 à 6 mètres de hauteur, et on le voit décoller, mais comme s'il volait véritablement, et il n'y a pas d'effet numérique. Ils l'ont tiré avec un câble, simplement il donne l'impression qu'il vole.
Alors, tout à fait, c'est un détail. C'est vrai qu'on avait dans l'expo des storyboards un peu où on voyait un peu tout ce document. On avait les storyboards avec Marlon Brando, mais on avait aussi des séquences comme ça où il bougeait. Et c'est vrai que je pense que le côté athlétique qu'il avait gagné permet de donner cette crédibilité. Mais c'est vrai que comme le dit notre ami réalisateur, dont le film et le chaton, je précise, il faut vraiment voir ce documentaire. Il y en a deux qui sont sortis, mais je le connais pas. C'est pas un ami, mais celui-là est meilleur.
Mais vous allez le devenir.
C'est gentil. Merci beaucoup.
Jean-Jacques Lognier.
je le pense
Philippe
vraiment.
Philippe Gage,
celui-là est le meilleur.
Ça me touche beaucoup, merci.
Voilà, s'il y en a qu'à avoir, c'est celui-là. Voilà, et, mais, voilà, et la séquence sur le chaton est vraiment intéressante. Et c'est vrai que bah, pour nous, c'était extrêmement bluffant. C'était vraiment réel et c'était la première fois, sans doute, dans le cinéma. Il y avait eu, évidemment, La Guerre des Étoiles. Mais néanmoins, c'est la première fois qu'on avait une incarnation crédible, même l'hélicoptère, enfin, tous ces plans.
Oui, quand il rattrape Lois Lane d'un bras et l'hélicoptère de l'autre.
Cette scène est toujours incroyable. Ouais, hein, toujours. On la voit aujourd'hui dans le découpage, dans le montage. Oui. D'ailleurs, c'est Stuart Baird qui était le monteur du film, qui avait travaillé déjà avec Richard Donner sur La Malédiction. Et il y a une efficacité dans le montage et dans les plans larges, en effet, qui est sidérante. Enfin, ça marche toujours, quoi.
Et ce plan, on en avait déjà parlé, Philippe, dans une autre émission, mais ce plan où Superman est à la verticale sur une fenêtre et il empêche un criminel de faire de l'escalade d'un immeuble. Et en fait, on voit le plan à l'intérieur du bureau où on voit juste les pieds de Superman comme ça qui parle, parce que lui, la gravité, bah, il s'en rit. Et ce que je trouve absolument hallucinant, c'est que voilà, plus de 40 ans plus tard, on n'a toujours pas eu de film, même dans les Spider-Man, on n'a pas osé ces plans à même une façade d'immeuble comme ça, où la gravité joue plus son rôle. C'est hallucinant.
Oui, je suis d'accord. Il y a dans ce Superman de Donner des plans comme celui que vous venez de décrire, qui donnent vraiment une sensation organique de ce que pourrait être vraiment l'existence de Superman dans notre monde réel. Voilà. Et donc on le voit en effet, ce moment, on le voit à l'horizontale avec ses pieds qui sont collés à la paroi vitrée du building, et à l'avant-plan un type qui est dans son bureau, qui pendant que Superman arrête le gredin qui essaye de monter à l'immeuble. Bah en effet, c'est hyper bien rendu, quoi. Et ça a dû être un truc tout bête, c'est une idée tout bête de mise en scène, mais ça fonctionne.
Ah mais je crois que c'est justement le monsieur assis. Ça, je l'avais vu. C'est le monsieur assis qui est en fait en sens qui est incliné et pas Superman.
D'accord,
en fait.
Ah bah...
et donc ça donne cette illusion en trompe-l'œil. De la même manière, quand on voit Clark Kent jeune qui court et dépasse cette locomotive,
ouais.
En fait, il était attaché à une voiture. Et ils ont vraiment accroché un gars qui fait semblant de courir avec de la poussière qu'il lâchait pour qu'on ait l'impression qu'il courait très vite, mais ils l'ont vraiment fait aller plus rapidement que la locomotive.
Bah, ils n'avaient pas d'image, ils n'avaient pas de technologie numérique à l'époque, hein, donc tout ça, ce sont évidemment des trucages, des effets spéciaux réalisés à même le plateau, quoi.
Et comment s'est passée la réception de ce film auprès du grand public ?
Alors, elle est délirante. On pourrait faire une émission entière sur toutes les galères qu'a été ce tournage de Superman, hein, qui a failli s'arrêter à plusieurs reprises. Il y a eu des conflits incroyable entre les producteurs et Richard Donner, entre les producteurs et Warner. Le film a failli être en faillite plusieurs fois, mais à l'arrivée, quand le film sort aux États-Unis un peu avant Noël 78, la presse est globalement très enthousiaste. Le public, lui, est complètement conquis. Il avait besoin de Superman. Le succès de La Guerre des Étoiles l'année d'avant avait déjà montré l'appétence du public pour de nouveaux grands récits d'évasion qui les sortaient un peu de la morosité de ces années 70 très déprimantes. Et Superman, vraiment, les fait décoller, si j'ose dire, hein, définitivement. Et l'accueil est, que ce soit aux États-Unis ou même dans le reste du monde, en Occident en tout cas, délirant, c'est peut-être pas le mot, mais extrêmement euphorique. Voilà. Les critiques, comme les gens, on peut retrouver dans les archives de l'INA aujourd'hui pas mal de plateaux, de sujets dans les émissions à la télé française qui ont été consacrés à la sortie de Superman, y compris dans les JT. C'est un phénomène.
You may or may not know, I am, as they say.
Alors, tu sais ou tu ne sais pas que je suis, comme on dit, très engagé dans l'immobilier.
Et
pour faire fortune dans ce genre d'affaires, on achète un peu de frais et on vend très cher, exact?
Exact.
Très bien.
Comment
augmenter la valeur de ces terrains entre le moment où on les achète et celui où on les vend?
This is California.
Alors ça, c'est la Californie.
West of this line.
Alors à l'ouest de cette ligne, nous avons les terrains les plus riches et les plus chers du monde. San Diego, Los Angeles, San Francisco.
À l'est de Kessel, il y a des milliers d'hectares de terrain sans valeur dans le désert qui ont été acquis en toute propriété par...
Alex Luthor, société anonyme.
Now, call me.
Alors traite-moi de fou, traite-moi d'irresponsable. En tout cas, il me semble qu'une bombe atomique assez puissante qui exploserait en un point propice pourrait
détruire presque toute la Californie.
Des millions d'hommes, de femmes, d'enfants voués à la mort et la côte ouest tout entière s'arrêterait dans l'océan.
Bye bye, Californie.
Hello. Saluons la nouvelle côte ouest.
Lex Luthor, tu n'es qu'un songeur. Tu es sous l'emprise de ton cerveau malade. Ton plan n'est pas viable.
C'est vrai, j'ai rencontré des petits problèmes. Calculer avec précision la nouvelle trajectoire du missile. Déterminer le point optimum de plus faible résistance de la faille. Qui, d'après mes calculs, se situe exactement là.
Le terrifiant plan de Lex Luthor interprété par Gene Hackman avec la voix de Francis Lax pour la version française. Jean-Jacques Launier, Superman a été, on peut le dire, le premier film de super-héros blockbuster lancé au cinéma. Il faudra attendre encore 10 ans pour que Batman vienne le rejoindre via Tim Burton. Et puis après, encore beaucoup plus longtemps, on a évidemment Blade, les X-Men, Spider-Man de Sam Raimi, et ensuite Marvel Studios qui se lance dans la danse. Vous qui avez eu la possibilité d'organiser une rétrospective des costumes de tous ces moments de cinéma qui ont évolué, comment vous avez vu cette histoire s'articuler devant vos yeux?
C'est vrai qu'on a eu la chance de faire la première grande expo au monde des super-héros Marvel avec Stan Lee en collaboration. Donc c'était intéressant parce qu'il expliquait comment il avait créé avec évidemment surtout les Jack Kirby, les dessinateurs, et du coup c'était intéressant d'avoir un regard sur les costumes. Et effectivement, chez Warner, on a eu accès un peu illimité à tout, et puis on a pu rencontrer les réalisateurs vivants, Zack Snyder, Patty Jenkins, etc. Et c'est vrai que c'est assez fabuleux parce qu'on a pu exposer aussi le travail des concepteurs, des concept artistes, alors que ce soit les anciens
qui sont
costumes.
Souvent, je dois l'avouer, parce que je suis un grand collectionneur d'artbook, qui est souvent bien plus intéressant que ce qu'on en voit à l'écran.
Bien sûr, c'est vrai que le résultat, c'est un peu souvent dans l'animation aussi, on voit des crayonnés, des aimants, et puis finalement il faut l'adapter à un modèle en 3D. Mais là, c'est vrai qu'on exposait les dessins de Linda Carter pour Wonder Woman dans l'expo d'ici, c'est carrément des dessins de mode extraordinaires. Mais pour Superman, là aussi, ça a été intéressant. Quand Zack Snyder s'est emparé du personnage, il a enlevé ce fameux slip...
Sacrilège.
Mais non, c'est vrai que c'était... En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ces personnages accompagnent leur époque. Alors, c'est un tout petit peu plus flagrant encore sur le Batman, qui est effectivement dans les années 60 burlesque, dans les années 80 complètement gothique, dans les années 90 MTV, c'est Schumacher, c'est du délire total. Et puis dans les années 2000, enfin, c'est Nolan, on fait un truc super sérieux. En fait, et puis maintenant, le méchant de la bande dessinée d'origine devient le héros des films à travers le Joker. Donc ça accompagne, et de cette façon, je pense que Superman et surtout effectivement Christopher Reeve a d'une certaine façon accompagné son époque. C'est Superman est né effectivement de ces deux jeunes, mais c'était aussi une époque où l'espérance de vie avait grandi. Enfin, la notion même du concept de super-homme devenait plausible, et je crois qu'il lui donne complètement sa stature. C'est vrai que dans l'expo on citait Nietzsche, évidemment, sans être, c'était pas chiant, hein, l'expo, mais c'était intéressant de parler du surhomme. Il a fait une définition du surhomme qui arrive à se transcender, à surpasser, à s'émanciper des règles ou des valeurs traditionnelles, un peu comme Christopher Reeve le fait en s'émancipant du classique et en prenant le risque de faire ça. Donc c'est choisir sa vie jusqu'à la mort fatigue, enfin l'amour qui fait qu'on aime autant dans la vie le bonheur que le désespoir et la souffrance. Et en ça, je pense que Christopher Reeve, c'est vraiment le surhomme.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de spectateurs qui ont découvert Superman avec les versions de Zack Snyder, qui des fois sont choqués quand ils tombent ensuite a posteriori sur la version de Christopher Reeve et Richard Donner, parce que on nous présente un Clark Kent maladroit, un peu comme ça, déguingandé, regarder. Et je sais que même sur les réseaux, j'ai des gens qui m'ont dit « Ah non, mais moi, je veux pas d'une version de Clark Kent où il joue le gogol ou ce genre de choses. » Or, pour moi, en y réfléchissant, alors évidemment, là, c'est un monsieur de 47 ans qui vous parle, mais je trouve que Clark Kent soit maladroit, c'est justement la chose la plus humaine que le personnage puisse avoir, dans le sens où, depuis tout petit, il doit faire attention et être en contrôle permanent de ses pouvoirs. Il a jamais vu de médecin. Donc, en fait, ça crée un rapport au corps où le fait d'être maladroit, c'est peut-être le moment où tu te sens enfin libre. Et donc, quand il joue Clark Kent maladroit, c'est peut-être le fantasme de Superman, c'est-à-dire d'avoir un moment où il n'a pas à contrôler. C'est peut-être de la psychologie vite fait, mais Philippe Gage, votre avis là-dessus?
Bon, d'abord, un Clark Kent un peu gauche, timide et en retrait, et donc qui est évidemment en opposition totale à Superman dans le costume, c'est quand même comme ça que l'ont conçu Siegel et Shuster, qui eux-mêmes étaient des geeks quand ils ont l'idée ensemble de Superman. Donc Siegel, le scénariste, et Shuster, le dessinateur, c'est des gamins de 17, entre 17 et 20 ans, hyper timides, ostracisés. C'est des geeks, quoi. Ils se réfugient dans leurs univers de science-fiction. Ils n'osent pas parler aux filles. Donc voilà. Donc ils sont, je veux dire, ils ont créé Clark Kent à leur image. Mm-hmm. Donc les gens qui aujourd'hui disent que c'est pas le bon Clark Kent, non, ils se trompent. C'est au contraire cette idée-là de Clark Kent qui est la plus fidèle aux origines. Et en effet, c'est ça tout le sens du personnage de Superman, toute la philosophie du personnage de Superman repose dans cette aptitude qu'il a à tout faire pour ne pas faire usage de tout de son pouvoir, à le mettre au service des autres et à se discipliner derrière les traits d'un personnage qui assure le secret de son identité.
Et cette discipline, Christopher Reeve l'avait dans la vie. Il y a même eu un activisme social et politique très très fort chez lui. On a l'impression qu'au bout d'un moment, le personnage qu'il a joué et lui-même se confondent.
Oui, il a toujours, en fait, Christopher Reeve était le fils d'un intellectuel de la côte Est, new-yorkais, je pense d'ailleurs, bon, son nom m'échappe, mais son père était universitaire, très engagé à gauche. Il a même été inquiété à un moment, je crois, un poste, c'est écrit ça la biographie de Christopher Reeve le dit lui-même dans son autobiographie, Still Me, il écrit à un moment que son père a vu lui échapper quelques postes universitaires importants à cause, parce qu'on était en plein McCarthyisme, et c'était à cause de ses idées politiques. Et Christopher Reeve a gardé, je pense, un héritage d'être concerné par ce qui se passe dans le monde. Et il a très tôt été, même à l'époque de Superman, du premier Superman, il a milité pour les enfants handicapés. Il a participé à plusieurs campagnes de cet ordre-là. Et en effet, après Superman, il s'est de plus en plus investi dans des causes politiques. La plus spectaculaire étant son voyage au Chili à la fin de l'année 1987 pour soutenir des comédiens chiliens qui étaient menacés par le régime de Pinochet. Tout cela suite à... Il avait lu une tribune dans le New York Times d'un dramaturge chilien que nous avons interviewé dans le film. Et dès qu'il a lu cette tribune, où le dramaturge expliquait que des comédiens allaient être exécutés par les escadrons de la mort de Pinochet s'ils quittaient pas le Chili parce que c'était des contestataires, eh bien, Christopher Reeve a tout de suite décroché son téléphone et proposé à cet auteur chilien de participer à un concert de soutien. Et il est allé là-bas, à Santiago du Chili. C'était une expédition assez risquée et qui a porté ses fruits, puisqu'il y a eu un très grand retentissement médiatique à cette histoire qui a fait apparemment changer d'avis Pinochet et donc qui a laissé ces fameux comédiens menacés au Chili, leur a laissé la vie sauve. Donc oui, il était très engagé. Je pense qu'il a pris au sérieux son rôle de Superman aussi sous cet angle-là, et plus encore, comme on le sait, après son accident qu'il a laissé tétraplégique, où là, il a réalisé que...
Accident de cheval,
en effet, saut d'obstacle, le refus d'obstacle par le cheval, Reeve tombe sur la tête, c'était pendant une compétition en 95, et après, il réalise, après avoir décidé finalement qu'il veut rester en vie, parce qu'à un moment, il a songé à mettre fin à ses jours, il y a renoncé grâce à l'amour de sa femme, Dana, et il a aussi réalisé qu'il pouvait donner un sens à sa vie, à cette nouvelle vie tragique, en mettant toute sa notoriété et son image de Superman, que les gens n'oublieraient jamais finalement. Il s'est longtemps battu contre ça, c'est ce qu'on raconte dans le film, parce qu'il a longtemps essayé de décoller l'étiquette en jouant des tas d'autres rôles opposés, complètement opposés
et
à Superman.
Et en jouant très très bien d'autres rôles. Très bien.
Ça, si les gens peuvent redécouvrir certains de ses films qu'il a fait hors Superman, il en a fait des pas mal. Hein. Et donc, il a fini par accepter à nouveau, dans les dernières années de sa vie, le fait que oui, dans le cœur des gens, il serait Superman à jamais. Et il a mis ça à profit, justement, dans la fondation qu'il a créée sur la recherche scientifique pour les blessures de la colonne vertébrale.
Un Superman éternel, comme le nom de votre documentaire.
Je n'aurais pas dit mieux.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci Philippe Guedge, merci Jean-Jacques Launier. Une émission réalisée de main de maître par Charles de Cilia. Elle a été préparée par Lisiane Larbagny et Manon Rax. Et à la technique aujourd'hui, le merveilleux Fabrice Desmaz. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler avec moi sur Instagram directement. Et vous pouvez d'ores et déjà écouter toutes nos émissions consacrées à Superman en podcast sur l'application Radio France.
Dis donc, artiste!
Excusez-moi.
T'as un beau costard! Oh, oh.